Vous écoutez, on lit pour vous.
Je ne comprends pas le débat sur le pourboire. Un texte de Nicolas Bérubé paru le 31 mars 2024 dans la presse. Il est souvent question de pourboire dans l'actualité. Plusieurs déplorent que des restos offrent sur leurs terminaux des choix qui vont de 18% à 25% et que le fait de laisser un pourboire moindre leur donne l'impression d'être « cheap ». Personnellement, je suis prévisible. Je laisse toujours 18% quand je mange sur place et 15% pour les repas à emporter. Pourquoi? C'est souvent aussi long pour les employés d'emballer nos plats et nos à-côtés dans les contenants individuels à emporter que de simplement nous les placer dans une assiette. Pourquoi cette différence de 3%? Je ne sais pas. Mon cerveau fonctionne comme ça. Cela dit, j'ai l'impression que le débat sur le pourboire est plus un débat sur le style de vie qu'on estime pouvoir mener qu'un débat sur l'exploitation et la justice sociale. Si j'allais au restaurant toutes les semaines, ou plusieurs fois par semaine, je serais sans doute irrité de toujours devoir ajouter 15%, 18% ou 20% au prix d'une commande qui coûte de plus en plus cher. Mais comme je ne vais pas au restaurant toutes les semaines, ça ne m'affecte pas. Combien dépense-t-on en pourboire dans une année? Le ménage moyen au Québec a dépensé 2 458 $ en repas au restaurant selon les données de 2019. Les données les plus à jour sont de 2021, mais elles sont artificiellement diminuées par la pandémie. En émettant l'hypothèse improbable que chaque repas a nécessité un pourboire, on est à près de 370 $ par année en pourboire à 15% ou à 491 $ pour un généreux 20%. À ça, il faut ajouter les pourboires dans les bars et chez le coiffeur. Mais c'est un calcul un peu futile de toute façon. Si le pourboire était inclus dans les prix, comme en France, on le paierait quand même. Et les Français laissent souvent de 5 à 10% en plus, même si personne n'y est obligé. On jase, là. Mais être agacé par le pourboire est peut-être le signe qu'on vit une petite coche au-dessus de ses moyens. Par définition, un pourboire sert à payer une personne qui accomplit une tâche pour nous. La meilleure façon de ne pas avoir à le faire est de ne pas avoir besoin de cette personne en premier lieu. Personne ne nous oblige à manger au restaurant, à prendre un Uber, à passer une soirée dans un bar. Tout ça est purement volontaire. Tout ça est, comment dire, du luxe. On a parfois tendance à l'oublier, mais manger au restaurant n'est pas normal. Manger au restaurant est objectivement une expérience ahurissante. Un entrepreneur met à notre disposition un bâtiment décoré avec soin qui a sans doute coûté plusieurs millions de dollars et qui nous réchauffe en hiver et nous rafraîchit en été. Dans des pièces qu'on ne voit pas, des employés trient, entreposent, lavent et préparent des aliments, certains provenant de pays où nous ne poserons sans doute jamais les pieds. D'autres employés nous servent des plats, s'assurent qu'on est satisfait, débarrassent notre table, lavent notre vaisselle, nettoient la graisse qui s'accumule dans la hotte dans la cuisine, passent la vadrouille plusieurs fois par jour, sortent les déchets. Et puis, qui exactement s'enrichit là-dedans? Les employés qui n'ont pour la plupart aucun régime de retraite? Ou les restaurateurs qui bénéficiaient d'une marge de profit moyenne de 3,2% en 2019 au Québec pour un restaurant avec service? Vous avez bien lu. Acheter un certificat de placement garanti, CPG, est plus payant que de posséder un restaurant. Et pas mal moins risqué. Je ne comprends pas le débat sur le pourboire. La porte invisible de Mouchni Pabraï. Sinon, j'ai une histoire de pourboire à vous raconter. Elle montre comment de petites sommes peuvent donner des résultats surprenants. Ce n'est pas une histoire de petite enveloppe brune ou de cocktail à 100 $ pour pouvoir parler à un ministre. Aucun geste illégal n'a été commis. Aucun élu n'a été soudoyé. Mais, personnellement, ça me fascine de savoir qu'il y a des portes invisibles dans notre société. L'histoire, donc, m'a été raconté il y a plusieurs années par l'investisseur et gestionnaire de portefeuille américain Monish Pabrai. Résident en Californie à l'époque, Monish Pabrai, rime avec « I », devait souvent faire des allers-retours Los Angeles-New York pour rencontrer des clients. Pour ne pas perdre une journée dans l'avion, il prenait un vol de nuit et arrivait à Manhattan vers 5h ou 6h du matin. Dans ces moments-là, tout ce qu'il voulait, c'est aller à l'hôtel faire une sieste et prendre une douche avant son premier rendez-vous. Mais il était beaucoup trop tôt pour prendre possession de la chambre, qui n'était accessible qu'à partir du milieu de l'après-midi. J'avais donc l'habitude de réserver la chambre pour deux nuits, dont la veille de mon arrivée, même si je n'y passais en fait qu'une seule nuit, a raconté Pabrai. Cette façon de faire lui donnait un accès rapide à sa chambre, mais comme les nuitées sont chères à Manhattan, ça faisait aussi grimper de beaucoup le coût de son déplacement. Un jour, Monish Pabrai a décidé de ne pas réserver la chambre pour deux nuits, mais seulement pour une nuit, et de voir si quelques billets verts pouvaient l'aider. Il est arrivé au comptoir vers 6h du matin. En s'identifiant auprès de la préposée, il lui a remis deux billets de $20 pliés. « C'est pour vous », lui a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il aimerait beaucoup avoir sa chambre maintenant, plutôt que durant l'après-midi. La préposée a pris l'argent et l'a posé près de son clavier, tout en continuant à pianoter à l'ordinateur en silence. « Je suis désolé », a-t-elle finalement répondu. « Mais le mieux que je peux faire, c'est vous offrir votre chambre dans une heure. En attendant, vous êtes invité à vous servir à notre buffet déjeuner qui vient d'ouvrir. Est-ce que ça vous convient ?» Monish Pabrai n'en revenait pas. Il venait de devancer de plusieurs heures le moment où il pouvait avoir sa chambre, et il pouvait patienter en déjeunant. Tout ça pour $40. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. En s'éloignant avec ses bagages pour aller déjeuner, M. Pabrai a vu du coin de l'œil la préposée regarder les billets qu'il lui avait remis. Elle a alors réalisé qu'elle avait reçu $40 et non pas $20. Monish Pabrai était en train de se servir un café deux minutes plus tard quand la préposée s'est approchée de lui en souriant. « Votre chambre est prête, monsieur », lui a-t-elle dit, en lui remettant une carte magnétique. Monish Pabrai dit avoir tiré deux leçons de cette expérience. Premièrement, la personne la plus influente d'un hôtel est la personne qui vous accueille à votre arrivée. Elle a le pouvoir de vous donner une chambre incroyable ou de vous placer près de l'ascenseur. Comportez-vous en conséquence. La deuxième leçon, un pourboire, c'est magique. C'était « Je ne comprends pas le débat sur le pourboire », un texte de Nicolas Bérubé paru le 31 mars 2024 dans la presse.
Doit-on faire le deuil de son médecin de famille? Un dossier de Nathalie Collard paru le 26 mai 2024 dans la presse. Un modèle qui n'est plus viable. On entend dire des médecins de famille qu'ils sont introuvables, qu'ils ne veulent plus travailler, qu'ils quittent le public pour le privé, qu'ils se plaignent de ne pas gagner assez, qu'ils préfèrent la médecine esthétique, plus payante. Chose certaine, on observe beaucoup de frustration et d'amertume à l'endroit des médecins de famille au Québec. La pénurie d'environ 1 200 médecins et le difficile accès à la première ligne n'améliorent pas les choses. De leur côté, les médecins de famille ont le vague à l'âme. Ils croulent sous les tâches administratives, ils aimeraient être plus autonomes, ils s'estiment sous-payés et surtout, ils ont l'impression d'être les boucs émissaires pour tout ce qui va mal dans le système de santé québécois. Au fil des entrevues menées pour ce dossier, j'ai réalisé que la médecine de famille avait changé, que les étudiants la boudent peut-être moins qu'on le croit. Et que notre fantasme du médecin de famille présent dans son bureau 24/7 est bel et bien cela, un fantasme. L'image du médecin de famille, tel qu'on le décrit aujourd'hui, est folklorique, me lance le docteur Cédric Lacombe, président de la Fédération des médecins résidents du Québec, FMRQ. On semble avoir oublié que cette image reposait sur un modèle familial où le médecin était un homme qui travaillait des semaines de fou pendant que sa femme prenait soin des enfants à la maison. Ce modèle n'est plus viable. Aujourd'hui, les jeunes médecins aspirent à une meilleure qualité de vie et souhaitent voir leurs enfants grandir. Qui pourra le leur reprocher? Le docteur Lacombe entend bien les critiques à l'endroit des médecins de famille, mais affirme qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui appuie l'idée que chaque individu devrait avoir son médecin. Ce qui est nécessaire, affirme-t-il, c'est qu'il y ait un point d'entrée unique, bien identifié, pour avoir accès à un panier de services. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin de famille, m'assure le président de la FMRQ, mais bien de réorganiser le système de santé pour que la trajectoire du patient soit plus fluide. D'un point de vue efficacité, un groupe de médecins qui a accès à mon dossier et à mon historique est beaucoup plus efficace. Mais ça demande aux Québécois d'avoir un peu plus de souplesse, rappelle le docteur Cédric Lacombe. Un discours politique néfaste. Quand je demande au président de la FMRQ pourquoi les étudiants en médecine boudent la médecine de famille, il réfute d'abord ce constat. C'est une spécialité super intéressante et modulable au cours d'une carrière, ce que d'autres spécialités ne peuvent se targuer d'être, répond-il. Mais, car il y a un mais. Les gouvernements Charest et Couillard, et plus spécialement le passage de Gaétan Barrette au ministère de la Santé, ont causé beaucoup de tort. Quand ça fait 15 ans, que t'envoies chier les médecins de famille sur la place publique, évidemment qu'il y a une génération d'étudiants en médecine qui va moins considérer la médecine de famille. On sous-estime à quel point ce terreau politique peut avoir un impact déterminant, se désole le docteur Cédric Lacombe. Pour une poignée de médecins, la question de la pénurie de médecins de famille fait tiquer tous les doyens des facultés de médecine à qui j'ai parlé. On me rappelle que, bon an, mal an, environ la moitié des étudiants en médecine, toute université confondue, choisit cette spécialité. Il y a quelques années, on tenait le discours inverse. On s'inquiétait du manque de médecins spécialistes, remarque Dominique Dorion, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Puis, les urgences ont été encombrées et on a réalisé qu'on manquait de médecins en première ligne. Je gagerais que dans 10 ans, on manquera d'oncologues et de gériatres, et la pénurie de médecins de famille sera derrière nous. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, en tenant compte de l'apport des autres professionnels de la santé, comme les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne et les pharmaciens à la prise en charge des patients, il sera possible d'atteindre l'équilibre entre l'offre de services et le nombre de médecins requis en 2030-2031. Néanmoins, la pression reste forte sur les universités pour former davantage de médecins de famille. Un décret fixe la proportion des places réservées à cette spécialité à 55%. Comme on augmente le nombre d'admissions en médecine chaque année depuis 2020, on devrait commencer à voir l'effet de ces augmentations dès 2026, il arrive que toutes les places en médecine familiale ne soient pas comblées. On parle d'une poignée d'étudiants, insiste le doyen Dorion de l'Université de Sherbrooke. Est-ce catastrophique, comme l'a laissé entendre Marc-André Amiot, président de la Fédération des omnipraticiens du Québec? Pas selon le docteur Dorion de l'Université de Sherbrooke. Ce qui décourage le plus les étudiants, croit-il, c'est le discours inapproprié des politiciens et des syndicalistes. La médecine de famille a de très belles années devant elle, mais elle a profondément changé. Elle s'est professionnalisée, la pratique s'est améliorée. C'est une médecine complexe qui se pratique désormais en collaboration avec d'autres professionnels de la santé, mais Il faut arrêter de cibler les 4 ou 5 % qui n'ont pas choisi la médecine de famille. On va le combler, le déficit de médecins. J'ai confiance, dit Dominique Dorion. Vous écoutez, doit-on faire le deuil de son médecin de famille? Un dossier de Nathalie Collard paru le 26 mai 2024 dans la presse. Une pratique diversifiée. On critique beaucoup le fait que les médecins de famille passent trop de temps à l'hôpital, ce qui diminue leur disponibilité en clinique. Devrait-on tous les ramener dans leur bureau? Ce serait une mauvaise idée, croit le Dr. René Whitmer, médecin de famille et professeur adjoint de clinique. On essaie de trouver ce qu'on peut pour attirer la relève vers la médecine de famille, et je crois que la diversité de pratiques, ça résonne avec eux, dit-il. Cela dit, rappelle-t-il, il y a des médecins qui voudraient faire exclusivement du bureau, mais on les en empêche à l'heure actuelle. C'est peut-être ça le plus grand problème. Ils vont au privé parce que c'est le seul endroit où on leur permet de faire ça. C'est désolant. Le médecin de famille 2.0. En attendant que l'autrice de la série Stat, Marie-Andrée Labbé, imagine un personnage de médecin de famille super sympathique, ce qui pourrait aider grandement l'image des omnipraticiens au Québec, un comité s'affaire à revaloriser cette spécialité en mal d'amour. La Table nationale de concertation sur la valorisation de la médecine de famille regroupe les hauts dirigeants de l'ensemble des organisations médicales, y compris la Conférence des doyens des facultés de médecine du Québec et la Fédération des médecins étudiants du Québec. La décision récente de ne plus exiger un formulaire du médecin pour une absence de quelques jours, c'est une des recommandations de cette table. Tout comme l'idée de devancer les stages en médecine familiale pour exposer plus rapidement les étudiants à cette spécialité durant leurs études. Au total, on a identifié 120 problèmes à régler, explique le Dr. Pascal Renaud, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec, qui participe activement aux travaux du comité. Comme tous ceux à qui j'ai parlé pour ce reportage, le Dr. Renaud insiste sur l'évolution de la médecine de famille au Québec. Ce qui distingue la médecine de famille aujourd'hui, c'est sa polyvalence, dit-il. C'est encore plus vrai pour les médecins en région. Je suis un médecin de famille et ma seule pratique est en salle d'urgence. J'ai des collègues qui ne font que des soins de longue durée en CHSLD. Les accouchements, la majorité sont faits par des médecins de famille au Québec. C'est ça que la population doit comprendre. Un autre aspect de la médecine de famille ignoré des étudiants et du grand public, c'est à quel point la pratique d'un médecin peut changer au fil des ans. J'ai commencé en faisant de l'urgence, j'ai fait de l'obstétrique et aujourd'hui, je fais des soins palliatifs et du CHSLD, explique le docteur Daniel Daou, qui siège elle aussi à la table de revalorisation. Cette flexibilité a été très précieuse dans ma vie pour m'adapter aux besoins de mes enfants. Cette polyvalence fait en sorte que les médecins sont moins disponibles pour faire de la consultation en bureau. Mais c'est aussi le plus grand attrait de la pratique auprès des jeunes. Parmi les sources d'irritation majeures auxquelles tout le monde souhaite s'attaquer, les obligations de pratiquer en région ou de prendre en charge certaines tâches. Tout le monde a un problème avec ça, affirme le Dr. Renaud. On a la prétention de penser que, si c'était enlevé, il y aurait beaucoup moins de 70 postes non pourvus en médecine familiale. Je ne doute pas que les Québécois vont finir par s'adapter à cette nouvelle vision de la première ligne, à condition qu'on leur explique les choses clairement. Et qu'ils puissent être vus par un professionnel de la santé qui répondra à leurs besoins dans des délais raisonnables. Ce n'est pas encore le cas. En savoir plus. 600. Nombre de postes de formation en médecine familiale qui n'ont pas été pourvus au cours des 12 dernières années. Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Vous écoutez, Doit-on faire le deuil de son médecin de famille? Un dossier de Nathalie Collard paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Fabrique-moi un bon médecin de famille. On a longtemps regardé de haut la médecine de famille dans les facultés universitaires. C'était le choix facile, voire paresseux. Au cours des dernières années, les universités ont dû adapter leur formation pour mieux valoriser le travail de l'omnipraticien. Toutes les personnes à qui j'ai parlé pour ce reportage partagent la même expérience. À un moment dans leur formation, on leur a dit « Tu es trop bon ou bonne pour être médecin de famille, tu devrais faire une spécialité. » C'est ce que le docteur René Whitmer, diplômé en médecine de famille de l'Université de Montréal, appelle le curriculum caché. C'est profond, complexe et difficile à défaire, lance-t-il, car ce sont des non-dits. Ce n'est pas inscrit dans les livres. Moi-même, on m'a dit ça durant ma formation. Comment attirer les étudiants dans une spécialité si on leur dit que c'est pour les gens faibles? Le docteur Whitmer croit que pour corriger le tir, il faut d'abord reconnaître l'existence de ce curriculum caché. Il faut l'exposer et l'expliquer, croit le médecin de famille. Il faut dire aux étudiants « Vous allez entendre ça » et ensuite rectifier les faits. Il faut aussi des modèles de rôle positif très présents dans la formation. Coup de foudre, mode d'emploi. Depuis quelques années, toutes les facultés de médecine s'activent à bonifier la formation pour revaloriser la médecine de famille et y attirer plus d'étudiants. Comment? D'abord, en embauchant davantage de médecins de famille comme professeurs et mentors. Ensuite, en rapprochant les stages de la première ligne dans les groupes de médecine familiale et en région. Objectif : exposer les étudiants à la médecine de famille le plus tôt possible et rendre cette spécialité plus attrayante. C'est facile de tomber en amour avec une autre spécialité si on rencontre la médecine de famille trop tard, lance le docteur Whitmer. Le problème ? La grande majorité des médecins qui enseignent sont des spécialistes. À l'époque où le docteur Whitmer était sur les bancs d'école, les médecins de famille étaient rares parmi les enseignants. Depuis, on a fait énormément de chemin, ajoute le docteur Whitmer, qui a collaboré étroitement à l'élaboration du renouveau du programme de médecine de l'Université de Montréal qui entrera en vigueur à la prochaine rentrée. À l'origine de ce changement, une volonté de faire une place de choix à la médecine familiale. Il y a vraiment une vision de construire un programme axé sur le généralisme, des notions qui peuvent servir à tout médecin, spécialiste et pas seulement aux médecins de famille. Bien sûr, on espère que ça va susciter des vocations, estime le docteur René Whitmer. La faculté de médecine va également ouvrir des cliniques multidisciplinaires dans la région de Montréal. Ce projet pilote, déjà approuvé par le ministère de la Santé, permettra de faire vivre la première ligne aux étudiants. Le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, Patrick Cossette, parle de laboratoire vivant pour décrire ces cliniques où l'on enseignera sur place afin de mieux comprendre la trajectoire de la première ligne entre le médecin et les autres professionnels de la santé comme les physiothérapeutes ou les pharmaciens. On développera des places supplémentaires de stage en groupe de médecine familiale dans ces cliniques, précise le doyen. Le nouveau programme de médecine mettra aussi l'accent sur l'enseignement de la communication et du leadership, la gestion de l'information et le numérique, ainsi que l'interaction avec les patients grâce à la collaboration des patients partenaires. Plus de formation en région. Toutes les facultés de médecine ont bonifié leur offre de stage en médecine de famille. À l'Université de Sherbrooke aussi, on a ajouté des stages en première ligne et augmenté le nombre de médecins de famille au sein du corps professoral. Les campus délocalisés permettent en outre aux étudiants des facultés de médecine d'étudier et de faire des stages dans les régions du Québec. L'Université de Sherbrooke est présente au Saguenay, à Moncton et à Longueuil, tout près de l'hôpital Charlemagne. L'Université McGill a un campus en Outaouais, en plus d'être présente à Châteauguay et à Val-d'Or. Quant à l'Université Laval, elle possède des pavillons à Lévis et à Rimouski, ainsi qu'une cinquantaine de places pour les étudiants qui souhaitent faire leur externat à Baie-Comeau, Chandler, Maria ou Amqui. Un autre projet sur la table de l'Université Laval, l'ouverture de places d'enseignement de la médecine de famille à Sept-Îles, qui en a bien besoin, en collaboration avec le CI3S de la Côte-Nord, l'objectif est double, exposer les étudiants à la réalité autochtone et former des médecins issus des Premières Nations. Aller à la rencontre des patients. Au-delà de la refonte des programmes d'enseignement de la médecine, l'initiative qui m'a le plus enthousiasmé, c'est la volonté affichée de se rapprocher de la population. J'ignorais que, depuis 2016, la Faculté de médecine de l'Université Laval organise des forums citoyens pour comprendre ce que la population attend de ses médecins. On rencontre des citoyens un peu partout, sur notre territoire, pour savoir quel est le type de professionnel de la santé que les gens aimeraient avoir, dit Julien Poitras, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval. La Faculté de médecine de l'Université Laval a introduit le premier citoyen collaborateur à son conseil facultaire en octobre dernier. La communication et la collaboration sont des éléments qui sont ressortis de nos forums et qui nécessitent davantage d'attention, note-t-il. L'Université de Sherbrooke s'apprête, elle aussi, à lancer des journées d'échange et de co-construction dans le but de se rapprocher des milieux communautaires et des préoccupations citoyennes. À l'Université de Montréal, l'accent est mis sur le patient partenaire, un concept lancé il y a une quinzaine d'années qui prendra plus de place dans la nouvelle formation des futurs médecins dans le cadre d'échanges et de laboratoires. Ces initiatives me semblent prometteuses. À tort ou à raison, bien des gens ont l'impression que les médecins observent le monde du haut de leur piédestal, ou qu'ils ne vivent pas dans le même monde qu'eux. Il s'agit d'impressions, bien sûr, et on ne peut pas mettre tous les médecins dans le même panier. Mais je salue les nombreuses initiatives qui visent à les rapprocher de nous, car il n'y aura jamais meilleure valorisation de la médecine de famille que le soutien de la population. C'était « Doit-on faire le deuil de son médecin de famille? » un texte de Nathalie Collard, paru le 26 mai 2024 dans La Presse.